Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
La situation de l'état civil en RDC, droit et citoyenneté, aborde cette thématique pour briser l'ignorance entretenue par une certaine opinion sur cette notion. Dans un pays bien organisé, lorsque le service de l'état civil fonctionne normalement, on n'a pas besoin d'organiser l'enrôlement des électeurs, car l'organe chargé d'organiser les élections peut puiser dans les fichiers de l'état civil pour avoir les données nécessaires sur la population appelée à voter. Qu'est-ce qu'un état civil? Est-ce que ce service d'état civil fonctionne normalement en RDC? Quels sont ses attributs et les défis à relever dans ce domaine? C'est autour de cette problématique que le magazine de promotion de vos droits et devoirs gravite aujourd'hui. Je suis Jeff Ngoyi Mulonda. Bienvenue à tous. Qu'est-ce qu'un état civil? Suivant les réponses de la population interrogée à ce sujet avant l'éclairage apporté par notre invité spécialiste de la question.
État civil?
Oui, bien état civil. Je
n'ai
pas de
l'explication.
Quand
l'état civil, c'est le statut d'une personne vivant dans une société. Une personne soit mariée, célibataire, veuf ou divorcée. C'est ce que je comprends de l'état civil d'une personne. Exemple, comme moi je suis mariée, ma mère est veuve, c'est ça l'état civil d'une personne.
Pour moi, l'état civil, c'est l'état matrimonial de quelqu'un. L'état civil, pour moi, on peut le regrouper en plusieurs parties. Il y a l'état civil dans les mariages où une femme se marie, son état civil peut être marié. Et il y a aussi l'état civil d'une femme qui a perdu son mari, qu'on appelle veuve, et vice-versa aussi, un veuve. Quoi, on peut parler aussi de la polyandrie. C'est aussi l'état civil d'une femme qui a plusieurs hommes. Il y a aussi l'état civil pour les singletons, quoi, les célibataires.
Bon, un état civil, là, c'est selon moi, c'est l'état de la personne qui est soit mariée, soit célibataire, soit veuve ou veuve.
Voilà, nous parlons de la situation de l'état civil en RDC. Qu'est-ce que tu entends par état civil, ta compréhension?
Oui, état civil, par rapport à la compréhension ordinaire chez nous ici, c'est d'une identité. Ce sont des origines. C'est ce qui détermine la nationalité d'un enfant ou de toute personne qui veut, n'est-ce pas, être originaire de notre pays par rapport à son statut, par rapport à ses fonctions qu'on sort.
Droit et citoyenneté, l'émission qui fait la promotion de vos droits et devoirs, se penche aujourd'hui sur la situation de l'état civil en RDC. Un service qui peine à s'organiser dans notre pays. Comment se présente cette situation de l'état civil, surtout que nous préparons à aller aux élections, sans savoir qui est congolais, sans carte d'identité nationale. Pour en parler, nous recevons M. Lengowe Jérôme.
Je suis avocat au barreau de Kinshasa, Gombe. Je suis consultant de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui est basée à Addis Abeba, mais moi je suis basé à Kinshasa. Je suis leur consultant en matière d'état civil.
D'abord, qu'est-ce qu'on entend par état civil?
L'état civil, c'est l'ensemble de qualités que la loi accorde aux personnes dans le domaine des droits de personnes. C'est constitué d'un certain nombre d'éléments qui peuvent être le nom, le lieu de naissance, la date de naissance, la nationalité, la filiation. Tous ces éléments-là ont des incidences par rapport aux droits de personnes. Par exemple, lorsque l'on pose souvent la question à une personne « Quel est votre état matrimonial ?» En fait, on lui demande un des éléments de son état civil qui est celui d'être marié. Et lorsque deux personnes sont mariées, cela influe sur leurs droits. Nous savons que le mariage donne certains droits, dont celui, le droit de succéder à son conjoint. Voilà, in globo, ce qu'on peut entendre par l'état civil.
Et parfois, quand on pose la question à quelqu'un, quel est ton état civil? L'idée qui vient directement en tête, c'est être marié ou bien être célibataire.
Ok, en fait, c'est juste un abus de langage. L'expression correcte serait plutôt quel est ton état matrimonial?
Voilà.
Pas non, ton état civil. Parce que l'état civil est beaucoup plus globalisant que l'état matrimonial. L'état matrimonial, c'est l'état de célibataire ou de mariés ou dans une certaine mesure de concubinage, mais les concubins sont des célibataires mais qui ont des apparences de mariés mais qui ne sont pas en fait mariés parce qu'ils ne sont pas reconnus par l'État pour n'être pas passés devant une autorité bien connue qu'on appelle l'officier de l'État civil. Le service de l'État civil existe au Congo. Et il existe auprès de la population. Parce que le législateur a voulu que le maire de la ville, le bourgmestre, le chef de secteur, le chef de chefferie soient d'office officiers de l'état civil. Or, ce sont ceux-là qu'on appelle les autorités de proximité. Bien que les personnes légalement établies pour occuper ce service existent, ce service est buté à beaucoup de difficultés. Et parmi ces difficultés-là, il y a des difficultés structurelles. Les conditions dans lesquelles ils travaillent sont très difficiles. Leur manière de conserver le registre d'état civil n'est pas optimale. Et il y a des situations où on arrive dans certains bureaux de l'état civil et il n'y a pas de registre. Donc ces services existent. Mais il n'existe pas de manière optimale. Il y a donc des efforts qui doivent être fournis à différents niveaux pour que ces services puissent travailler de manière plus optimale. C'est ainsi que en 2010, le différent ministre en charge de l'état civil s'était rencontré à Addis Abeba et ont réfléchi et ont décidé de mettre en place le programme africain d'amélioration accélérée des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et d'établissement des statistiques de l'état civil. Et en 2018, le Conseil exécutif de l'Union africaine à sa 32e session ordinaire qui s'est tenue encore à Addis Abeba du 25 au 26 janvier 2018, ils ont décidé de pouvoir mettre en place une journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques d'état civil. Nous aurons l'occasion de célébrer, de commémorer cette journée, ce 10 août. Son thème principal est exploiter la coordination, les leaderships et l'appropriation des pays pour renforcer les systèmes intégrés d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil. Un vecteur pour compter tout le monde. Voilà en gros ce que je peux dire de l'état civil, mais il y a des questions plus spécifiques sur lesquelles nous pouvons nous attarder plus en détail.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs, Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre. Mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h.
La situation de l'état civil en RDC, nous en parlons avec Lengoé Jérôme. Vous avez l'occasion de visiter les services de l'état civil à travers les maisons communales. Vous dites qu'il y a des défis à relever. Quels peuvent être ces défis?
Parmi les défis à relever, il y a ce qu'on appelle, et c'est le thème même principal de la journée du 2 août, il faut qu'il y ait un certain leadership et une appropriation. Il faudrait que à tous les niveaux de l'État, l'on puisse mettre certains mécanismes pour permettre à ces services de travailler de manière optimale. À cet effet, à l'occasion de cette journée, il est demandé au gouvernement des pays d'Afrique de créer ou maintenir des comités de coordination inter-institutions qui réunissent régulièrement toutes les parties prenantes pertinentes du système d'enregistrement des états civils et des statistiques de l'état civil et du système d'identification. Vous avez parlé il n'y a pas longtemps de la carte d'identité. Donc c'est une préoccupation dans le cadre du projet d'amélioration accélérée des services en Afrique. Il leur a encore demandé au gouvernement d'établir des liens entre le système service de l'état civil et d'autres systèmes. L'état civil, c'est la base de l'identité. Et il permet à d'autres services de venir puiser dans l'état civil pour avoir ses propres données. Et parmi ces services, il y a comme nous venions de parler de la carte d'identité, et à l'ONIP. L'ONIP a besoin de données.
Est-ce que vous travaillez ensemble, vous collaborez?
Oui, l'ONIP est partie prenante du processus. Donc l'ONIP a besoin de données de l'état civil pour délivrer, lorsque les personnes atteignent 18 ans, la carte d'identité. La commission nationale, la commission électorale nationale indépendante, la CENI, a besoin de données de l'état civil. Lorsque l'état civil fonctionne normalement, la CENI n'a pas besoin de toujours
enrôler
les électeurs. Oui. Les données seront envoyées directement par les services chargés de l'état civil de toutes les données des personnes qui ont atteint 18 ans. Ce qui nous met le plein pied dans la troisième recommandation, qui est celle de faire progresser la numérisation des données d'état civil dans le cadre de l'infrastructure publique numérique. Pour que ce que je venais de dire tantôt, que la CENI ait facilement les données de l'état civil, pour que l'ONIP ait facilement les données de l'état civil, il faudrait numériser le service de l'état civil. Et présentement, notre législation ne permet pas de numériser les registres de l'état civil. Les registres sont papier. Or, le problème avec les registres papier, lorsqu'ils ne sont pas très bien conservés, il y a plusieurs risques. Risque d'incendie, risque d'humidité. Il y a risque...
Comme ce qu'on a déploré dernièrement à l'ONATRA.
Oui, comme à l'ONATRA. Les archives peuvent disparaître en une journée. Oui. Vous vous rappellerez qu'à un certain moment, la commune de la Gombe a été incendiée. Donc, c'est toute une histoire de beaucoup de personnes qui s'est perdue à cette occasion. Mais ce sont des risques que la numérisation permet d'éviter. La quatrième recommandation est celui de renforcer le cadre juridique et réglementaire régissant les systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil et des systèmes d'identification.
Vous parlez des faits d'état civil. Oui. De quoi s'agit-il? Donc,
le fait d'état civil, en globalité, il y a la naissance, le mariage et les décès. Ce sont les principaux. Mais au-delà de ces trois, il y a d'autres faits d'état civil, l'adoption, la filiation, le divorce.
Le divorce.
Dans d'autres législations, la séparation de corps. Voilà, tout cela sont réunis dans les termes génériques de faits d'état civil.
Faits d'état civil.
Et donc,
la succession aussi.
D'une certaine façon. La succession est une composante de l'état civil. Puisque la succession est fonction de la filiation.
Tout à fait.
On succède à quelqu'un parce qu'on est l'enfant de la personne qui est décédée, suivant les termes génériques qu'on emploie en droit, le dépouillage. Donc, comme je venais de le dire tantôt, notre système juridique est papier. Pour passer au numérique, il faudra réformer le cadre juridique. Il faudra que les législateurs permettent que nous quittions du papier au
numérique.
Et il y a une loi qui a été déposée au Parlement pour que nous puissions aboutir à cela. Donc, la cinquième recommandation est celui d'accroître la disponibilité des données d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil actualisées et pertinentes. L'état civil a plusieurs fonctions, principalement trois. La première fonction est celui de l'identification juridique. La première pièce d'identité d'une personne, c'est son acte de naissance. Parce que généralement, jusqu'à 18 ans, les enfants n'ont pas de pièce d'identité. Et la seule pièce d'identité qui montre que cet enfant existe,
c'est l'acte de naissance.
L'acte de naissance.
Ça, c'est la première fonction de l'état civil.
C'est la première fonction de l'état civil. La deuxième fonction de l'état civil, c'est une fonction collaborative. Par la fonction collaborative, ça revient à ce que j'ai dit tantôt au sujet de l'ONIP et de la CENI. L'état civil permet la collaboration entre ces différents services servant ce qu'on appelle l'opérabilité. Ces trois services doivent pouvoir ces trois services doivent pouvoir collaborer entre eux. Et pas seulement ces trois services, il y a un autre service, c'est le service de l'immigration, la DGM. D'autres services, c'est le service de sécurité sociale. Ils doivent pouvoir prendre leurs données au niveau du service de l'état civil. Voilà la deuxième fonction de l'état civil qu'on appelle la fonction collaborative ou la fonction administrative. Et la troisième fonction, l'une de non de moindre, et c'est la fonction statistique. Il est difficile aujourd'hui de dire combien d'enfants sont nés l'année passée au Congo.
Il est même difficile de dire combien sommes-nous en RDC.
Voilà.
On est dans les estimations.
Dans les estimations.
Mais comment on arrive à des chiffres approximatifs? Comment on peut estimer la taille d'une population?
Le meilleur moyen pour pouvoir estimer plus ou moins exactement la taille d'une population dans le territoire d'un pays, c'est lorsque le service de l'état civil fonctionne normalement. L'état civil a l'avantage d'être permanent. C'est un service qui fonctionne au jour le jour. Pour pouvoir estimer la taille d'une population, on recourt par certains autres procédés. Et parmi ces procédés, il y a le recensement. Un autre procédé, c'est l'enquête par sondage. Mais le problème avec ces deux méthodes est qu'ils ne sont pas permanents.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi à partir de 9h.
La situation de l'état civil en RDC, et nous étions à l'étape de la troisième fonction que vous expliquiez, qui concerne les statistiques, et nous parlions de la taille de la population, qui est difficile à être précisée. On est toujours dans les estimations, dans les chiffres approximatifs, et on se demande comment on arrive même à estimer la taille d'une population. Pour qu'on arrive même à donner un chiffre approximatif, on part de quels critères pour en arriver là?
En fait, on fait juste des projections, des estimations qui ne sont pas aussi exactes que ça. Du moment qu'on ne sait pas combien de personnes naissent, combien de personnes décèdent, combien de personnes entrent sur le territoire et combien de personnes quittent le territoire. La meilleure façon pour pouvoir connaître une population, c'est d'avoir un service de l'état civil fonctionnel. Nous sommes dans un processus de recensement. Peut-être nous arriverons à estimer la population congolaise à 150 000. À partir de ce moment que l'on aura estimé, si les services de l'état civil ne fonctionnent pas correctement, les chiffres qui viendront les années à venir seront inexacts.
Nous sommes estimés à combien?
Entre 100 millions et 150 millions.
100 millions de Congolais.
Oui, c'est juste une estimation. Mais maintenant, du moment qu'on ne sait pas combien de personnes naissent, combien de personnes décèdent, combien de personnes migrent vers l'extérieur, combien de personnes viennent de l'extérieur vers l'intérieur, il est difficile d'avoir le nombre exact. Mais après les recensements, lorsqu'on connaîtra le nombre exact, supposons par exemple 150 millions, il sera beaucoup plus facile de suivre plus ou moins exactement la population congolaise. Parce qu'il suffira juste de faire 150 millions, on ajoute le nombre de naissances, on soustrait le nombre de décès, on soustrait le nombre de personnes qui sont parties à l'étranger, on ajoute ceux qui sont entrés et on aura un chiffre plus ou moins exact de la population. On dit plus ou moins exact parce qu'il existe des situations juridiques qu'on appelle comme celui d'absence ou de disparition. Lorsque ce n'est pas encore cristallisé, suivant le processus prévu par le code de la famille, ces personnes-là, on ne sait pas si elles sont vivantes ou mortes. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire de la fonction statistique. Et ces mêmes statistiques ont une autre importance en matière de logement, en matière de santé, en matière d'éducation. Nous sommes dans le système de la gratuité de l'enseignement. Il sera difficile de dire si c'est une réussite ou pas, dans la mesure où il faut faire des projections. Des projections de quelle manière? Lorsque les services de l'état civil fonctionnent correctement, il est facile de suivre les naissances et les décès, et savoir en 2028, en 2030, on peut avoir quel nombre d'enfants qui vont entrer à l'école primaire pour savoir si les infrastructures actuelles pourront les accueillir ou il faut ajouter le nombre de classes, le nombre d'écoles, le nombre d'enseignants, mettre les moyens pour les enseignants pour qu'ils puissent bien enseigner nos enfants. Voilà en gros ce que je peux dire des différentes fonctions de l'état civil. Et pour chuter sur la 6e recommandation à l'occasion de la 10e journée de la journée africaine de l'état civil, on recommande au gouvernement de sensibiliser les communautés à l'importance de l'enregistrement des faits d'état civil et aux avantages de l'enregistrement pour les familles. Dans certains pays, et ça devrait être le cas dans notre pays, quelqu'un ne peut pas avoir sa carte d'identité s'il ne présente pas son acte de naissance. Quelqu'un ne peut pas se marier s'il ne présente pas son acte de naissance. Un enfant ne peut pas être inscrit à l'école s'il ne présente pas son acte de naissance. Quelqu'un ne peut pas avoir les avantages sociaux liés à sa qualité d'orphelin s'il ne présente pas son acte de naissance. Comme je l'ai dit, au sujet de l'importance de la fonction juridique des actes de l'état civil, cet acte de naissance, puisqu'il reprend le nom du père et de la mère, prouve que vous êtes l'enfant de la personne dont vous voulez récupérer le droit. Par exemple, à la succession, lorsque on doit succéder, c'est-à-dire soit prendre la chaise, la télévision, la maison, la parcelle qui appartenait à votre père ou à votre mère, vous ne pouvez pas être reçu devant les services attitrés de l'État comme successeur si vous ne présentez pas l'acte de l'état civil. C'est-à-dire le document que l'État vous a délivré pour dire que vous êtes l'enfant de la personne que vous voulez succéder.
La situation de l'état civil en RDC, à l'occasion de la 5e journée africaine de l'état civil, quel message vous avez adressé à la population?
Particulièrement à la société congolaise, à la population congolaise, je leur demanderai de déclarer les faits d'état civil qui surviennent dans leur famille, particulièrement les naissances et les décès. À un certain moment, lorsque vous déclarez dans les délais et que vous avez ces actes, vous aurez toujours besoin de cet acte-là pour une ou quelconque raison. Par exemple, l'acte de décès, comme je l'ai dit tantôt, permet à ce que les gens puissent succéder. Alors, si vous n'avez pas eu cet acte lorsque la personne est décédée, vous êtes obligé de passer par le processus de jugement supplétif qui est un peu plus coûteux que l'acte
de naissance qui est gratuit.
Le législateur, étant donné que certains bureaux d'état civil sont loin du lieu de naissance,
on est arrivé à 90 jours.
À 90 jours. C'est ce qui peut expliquer peut-être qu'on soit pas consigné à temps les 40%. Mais suivant la recommandation des Nations Unies, il faudrait que d'ici 2030, que toutes les naissances, tous les décès soient enregistrés. Donc nous sommes à 8 ans de 2030.
Identité culturelle. La culture congolaise dans sa diversité et sa richesse a un rendez-vous sur Radio Capi. Identité culturelle aborde la culture et les arts sous toutes leurs formes. Gastronomie, littérature, les us et coutumes et tout ce qui peut redonner aux Congolais sa valeur identitaire. Identité culturelle, un magazine qui vous ressemble. Et trouvez toute l'équipe tout le samedi à 8h30, le mardi à 14h15.
Droit et citoyenneté.
Est-ce que les gens qui meurent dans des catastrophes naturelles, ils disparaissent dans la nature, leurs décès sont déclarés, enregistrés?
Le code de la famille a prévu une procédure particulière pour ces personnes-là. Ce sont des personnes que l'on dit disparues. Une personne disparue, c'est une personne qui est décédée. On sait qu'il est décédé, mais on n'a pas retrouvé le corps. Et il y a une procédure de déclaration qui commence par faire intervenir les tribunaux. Donc le tribunal doit rendre un jugement déclaratif de décès. Et sur base de ce jugement déclaratif de décès, vous allez vous présenter devant l'officier de l'état civil pour enregistrer le décès. Et lui, à l'occasion, va vous remettre un acte de décès. Donc ces personnes-là sont dans le cas qu'on appelle la situation de disparition. Mais il y a aussi une autre situation qu'on appelle la situation d'absence. L'absence, c'est la situation d'une personne qui a quitté de son domicile ou son résidence.
Oui, plus et, sans retourner.
Oui, sans retourner. C'est-à-dire, on n'a aucune certitude. Est-ce que cette personne est décédée? Est-ce que cette personne est encore en vie?
Mais lorsque l'absence devient prolongée, sans aucune nouvelle...
Et on est toujours en situation d'absence. Mais pour cette situation d'absence, il y a encore une autre procédure dans le code de la famille qui permet de saisir les tribunaux pour pouvoir rendre certains jugements qui permettent de plus ou moins de gérer cette situation. Et cette situation aboutit par un jugement qu'on appelle déclaratif de décès. C'est une procédure qui peut aller, si ma mémoire est bonne, entre 3 et 8 ans. Au bout de 8 ans, le tribunal doit rendre un jugement déclarant cette personne décédée. Et sur base de ces jugements-là, vous devez aller faire inscrire au niveau du bureau de l'état civil.
En un mot, on retient quoi sur l'état civil?
L'état civil existe au Congo. Il ne fonctionne pas de manière optimale. Il y a beaucoup d'efforts à fournir au niveau du gouvernement, au niveau des organisations de la société civile, au niveau des partenaires techniques et financiers, et au niveau de la population qui doit être sensibilisée à enregistrer les naissances, les décès. Pour le mariage, plus ou moins, ça ne pose pas de problème puisque ça se passe devant l'officier de l'état civil. Pour ce qu'on appelle les mariages célébrés devant l'officier de l'état civil. Mais il y a d'autres mariages qu'on appelle généralement le mariage coutumier. Mais juridiquement, on appelle cela le mariage célébré en famille, pour lequel le législateur a donné un délai de 3 mois pour que cela soit déclaré devant l'officier de l'état civil afin qu'il puisse délivrer un acte de mariage. Donc, pour le mariage, il n'y a pas un grand problème, mais il y a certains mariages qui sont célébrés en famille, mais qui traînent à être déclarés au niveau de l'officier de l'état civil. Pour le conjoint, les époux, les familles qui se retrouvent dans ces situations-là, il est temps pour eux de régulariser cette situation et d'aller devant l'officier de l'état civil, s'ils sont encore dans les délais, pour obtenir un acte de mariage. Si le délai de 90 jours est déjà passé, ils doivent se présenter devant le tribunal de paix pour que le tribunal de paix rende un jugement qui va les autoriser et permettre à l'officier de l'état civil de pouvoir enregistrer ce mariage.
Voilà, la situation de l'état civil, les faits de l'état civil, les fonctions de l'état civil, droit et citoyenneté, à aborder cette thématique pédagogique avec Jérôme de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique.
Dont je suis le consultant basé en RDC.
Droit et citoyenneté d'aujourd'hui sur la situation de l'état civil en RDC est terminée. Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.